7-9 avec Stéphane Paoli et Sandra Freeman en direct et en public au Centre Pompidou-Metz. Renseignements franceinter.com. France Inter présente Gotham Project Tango 3.0. En concert à l'Olympia le 17 mai. Retrouvez Gotham Project et leur nouveau titre dans le programme musical de France Inter. France Inter, la différence.
Il est 15h04, à suivre, là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Il a fallu le temps, bah, apparemment les Grecs se réveillent. Je pense qu'il faudrait aussi que ça arrive un peu ici avant qu'on se fasse manger tout cru.
Oui, bonjour, et bien je voudrais tout simplement soutenir moralement ce peuple grec. Si je pouvais les accompagner, je le ferais, mais je pense que bientôt ça sera notre tour, hein, parce qu'on a beau nous emberlificoter là. Mais bon, apparemment il reste encore un peu de fric à l'État pour envoyer les flics taper sur la population. Ils veulent les mettre à genoux, carrément les mettre à genoux. Bientôt ça sera notre tour. Alors je suis quand même très étonnée qu'aucune organisation en France ne pense à appeler seulement à une manifestation de soutien. Moi, dans mon petit coin de campagne, je ne peux pas grand-chose. S'il y a une manif, j'irai.
Bonjour, c'est Claudie. Je tenais à remercier la Belle si j'y suis pour l'énorme fou rire que l'émission m'a procuré mercredi. Un stage poule, mes enfants, pour les étudiants à l'international et à l'humanitaire, et cautionné par un ancien du GIGN. Dommage que la France paysanne et rurale soit son travail et n'était pas à l'écoute, car je crois qu'un immense éclat de rire serait monté dans nos campagnes. Je signale une méthode moins barbare employée jadis par mes grands-parents pour tuer la poule, l'anesthésier d'abord par un coup de bâton sur le crâne, ensuite vous pouvez trancher, découper si ça vous plaît. Voilà, décidément, pour faire du fric, la connerie n'a pas de limite.
Oui, bonjour tout le monde. Bien, François Ruffin, vous les avez choisis là pour l'histoire du poulet à la machette. C'est vraiment mort de rire. Oui, non, il se trouve que j'étais membre d'une ONG de développement pendant 15 ans. J'ai jamais vu couper la tête d'un poulet à la machette. Et ces gens des trois âges, je les connais assez bien. Bon, ils sont formés pour, porter la bonne parole de l'ultralibéralisme en ville. Moi, je les ai jamais vus en brousse. Hein. Au revoir.
Ouais, on a gagné. En ce jour d'hystérie footballistique, il y a aussi un bilan à établir. Ça fait trois ans de pur bonheur grâce au grand timonier Nicolas Ier qui nous a comblés de ses bienfaits comme le déremboursement de médicaments, l'augmentation du forfait hospitalier, la magnifique augmentation des retraites et du SMIG, l'augmentation du gaz et du fioul, le bouclier fiscal, les promesses de Gandrange, du Guilvinec et aux agriculteurs. Les mensonges ou les flops sur la vente d'avions au Brésil ou de centrales nucléaires en Libye ou en Arabie Saoudite. La construction de PR dont le coût est passé de 3 milliards à 6 milliards et qui n'est toujours pas en état de marche. L'aide aux banques responsables de la crise, aux constructeurs de bagnoles qui délocalisent. La merveilleuse gestion bessonesque de la jungle à Calais et l'augmentation des charters. La promesse de plus d'un SDF dans la rue, alors que 358 sont morts l'année dernière. La privatisation cachée de la Poste. L'aide sur le livret A pour ceux qui peuvent encore économiser. Mais ce n'est pas fini. Il nous promet 100 000 fonctionnaires en moins entre 2007 et 2010, et avec un peu de chance, une retraite qui commencerait juste après notre mort. Quand je pense que certains le critiquent, les Français n'ont vraiment aucune reconnaissance.
Amis OMG, ce soir rendez-vous à 20h devant le Fouquet sur les Champs-Élysées en présence de Christophe Alévêque pour fêter les 3 ans de notre président de la République.
Mes chers amis, j'en ai vu dans ma carrière politique des victoires. Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Je serai le président de la République de tous les Français, sans exception.
Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
Et puis, je veux dire à tous ces artistes qui ont eu le courage. de me soutenir. Je veux leur dire qu'ils ont eu le courage de résister à la pensée unique. Je suis fier d'être votre ami.
On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un pionnier.
Mon prénom Jean-Marie, facile à se rappeler, Marie comme la Vierge, ça, ça vous fait marrer. Dès mon tout premier cri en pétant dans ma couche, les mots poil, bite et cul me sont venus à la bouche. On est tous fait pareil, mais faut faire attention. Si t'es pas vigilant, tu peux devenir très con.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
On est toujours là.
C'est une chanson qui dit qu'on va mettre le paquet. Hein? Vous répétez après moi, c'est le refrain. Et à un moment, je dis « Et on va mettre le P, et on va mettre le P, et on va mettre le A,
et on va mettre le
Q. » Hein, c'est pas mal.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
Et voilà, 3 ans, et l'Élysée publie un document vantant les 3 ans d'action du président de la République, et pas mal de médias, notamment Rue 89, dit que le bilan proposé par l'Élysée comprend nombre de contre-vérités. C'est intéressant à lire, et là on est en présence évidemment d'un fait avéré, évident, de propagande. Je dis ça parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, non pas forcément la propagande sous une forme aussi grossière, mais sous l'angle du langage. Je prends deux façons de décrire la même chose. Le jeune homme avait sur lui un opinel et une boulette de cannabis. Voilà, une phrase qu'on peut entendre au fil des infos. Le même fait, décrit autrement. Le fuyard qui dissimulait une arme blanche transportait également de la drogue. Voilà, deux versions du même fait, dans des langages différents et qui suggèrent des choses différentes. Voilà, là c'est déjà un petit peu l'entourloupe langagière est déjà un petit peu plus fine. Mais, bien sûr, il s'agit de détournement de la vérité, tout simplement. Tant les mots créent le sens. Je prends maintenant les mots d'un sondage. Les mots dans un sondage, on vous appelle, on vous demande quel est votre point de vue. Faut-il sanctionner la mendicité agressive ? Faut-il sanctionner la mendicité agressive ? Qu'est-ce que vous répondez, vous ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Ben oui, non, bon, très bien. Mais sauf que on ne sait pas, dans une question comme celle-là, de quelle sanction il s'agit. On ne sait pas non plus, dans cette question-là, quel est le degré d'agressivité de la mendicité, du mendiant en question. Là, c'est déjà quand même beaucoup plus directif, c'est-à-dire que la question est beaucoup plus directive. Une autre formulation d'une question pour un sondage, faut-il ou non sanctionner l'outrage à l'hymne et au drapeau ? Là, de la même façon, on ne dit pas quelle est l'importance de la sanction, ni l'importance de l'outrage. On voit comme ça que les mots sont importants. Et c'est notre émission d'aujourd'hui. Les mots sont importants avec un collectif qui, depuis des années, sur le net, travaille à... au fond, c'est... il s'agit d'autodéfense intellectuelle, un thème qui revient souvent dans cette émission. C'est-à-dire mesurer à quel point les mots sont piégés, et parfois involontairement. Et Pierre Bourdieu disait « Nommer, on le sait,
c'est faire voir, c'est créer, c'est porter à l'existence. Et les mots peuvent faire des ravages. Prenons trois mots. Islam, islamique, islamiste. Le foulard est-il islamique ou islamiste? Et, se demande Bourdieu, s'il s'agissait d'un fichu tout simplement sans plus. Il m'arrive, continue Bourdieu, d'avoir envie de reprendre chaque mot des présentateurs qui parlent souvent à la légère sans avoir la moindre idée de la difficulté et de la gravité de ce qu'ils évoquent et des responsabilités qu'ils encourent en les évoquant devant des milliers de téléspectateurs sans les comprendre et sans comprendre qu'ils ne les comprennent pas parce que ces mots font des choses, créent des fantasmes, des peurs, des phobies ou simplement des représentations fausses. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce collectif qui, depuis 10 ans, s'attache à se confronter aux mots, au langage et évidemment aux idées, aux certitudes et à la propagande que ces mots transportent, que ceux qui les transportent, qui les disent, qui les profèrent, en soient ou non conscients. Nos deux invités, c'est Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan de ce collectif Les mots sont importants, à l'occasion de la sortie de leur bouquin chez Libertalia. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BASI. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG. C'est pour vous prévenir que le prochain repère du 14e, c'est le dimanche 9 mai, au Magique, 42 rue de Gergovie. C'est à 20h, c'est au métro Plaisance. Voilà, à bientôt.
Voilà, je tiens à vous parler d'une grève qui se déroule actuellement chez Durisotti à Salomine, transformation, carrosserie et compagnie, et qui est certainement une affaire comme les Conti. Il ne faut pas les laisser tomber parce que personne ne parle d'eux. Merci, à bientôt.
Bonjour à tous. Ne pas oublier ce soir à Alban dans le Tarn, le Café Repère qui se déroulera à 20h30 chez Marco en ce jeudi 6 enneigé.
Bonjour, et pour 31 euros 31 centimes d'oubli de déclaration aux essayistes parce que je travaille en intérim, je suis radié pour 6 mois. Alors je veux demander à Monsieur Pasqua et tous les autres filous du gouvernement, comment ils font en détournant des milliards pour toujours percevoir leur salaire. Voilà.
Voilà, c'est un message pour les AMG lyonnais, puisque la réunion mensuelle des AMG aura lieu ce vendredi soir 7 mai à 20h30 au Cotopo, 14 rue René Lénon dans le 1er arrondissement. Et le thème cette fois-ci, c'est épargne et finances solidaires avec comme invité la NEF et le Club Cigale.
Moi, je tenais à saluer la démarche d'un grand fabricant de chaussures de sport ainsi que de vêtements de sport qui, pour ne pas le citer, s'appelle Nike et qui propose actuellement de commercialiser des lacets rouges au profit des petits-enfants d'Afrique. Bien entendu, tout ça au détriment des petits-enfants malaisiens qu'ils exploitent depuis si longtemps. Et je voulais aussi m'excuser auprès de mon papa d'avoir voté Sarkozy.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan. Les mots sont importants.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on va pas parler trop fort parce que faudrait pas qu'on soit écouté par tout le monde. Il y a une phrase d'Audiard qui dit « Je parle pas aux cons, ça les instruit ». Et je me demande si c'est pas votre chance à tous les deux et à votre petit groupe là dont vous allez nous parler, c'est que ceux que vous combattez ne vous prennent pas au sérieux et vous méprisent. C'est-à-dire que des marginaux, des gauchistes, des islamistes, etc., ou des islamo-gauchistes, ce qui fait que ça les dispense de vous lire, de vous prendre en considération. Et ça, c'est très bien, parce que s'ils vous écoutaient, ça les instruirait. Alors qu'en général, c'est ça notre chance vis-à-vis des pouvoirs, c'est qu'ils s'auto-intoxiquent en n'écoutant pas leurs adversaires et ceux qui les combattent. Et ça, je pense que c'est bien que vous ayez le goût du dissensus, que vous ayez le goût de la castagne, ce qu'on peut appeler la guerre des idées, parce que vous êtes quand même dans un camp dans cette guerre des idées. Est-ce que ça vous plaît, cette façon de vous présenter, Pierre Thévagnan?
Sylvie Tissot.
Ça me déplaît pas en tout cas, mais est-ce que c'est un goût ou est-ce que c'est un autre corps défendant? En tout cas, de fait, sans forcément qu'on l'ait mesuré au départ, on s'est retrouvé effectivement assez vite au milieu d'une guerre de tranchées. On était sans doute un petit peu naïf quand on a commencé de penser que les idées qu'on défendait avaient rien ni d'exceptionnellement violente, ni d'exceptionnellement radical, que c'était, j'allais presque dire, le bon sens. Et puis on se retrouve effectivement très vite avec des étiquettes qui nous font comprendre que non. Et puis par la force des choses, puisqu'on est au milieu d'une guerre et qu'on prend des coups, ben, on apprend à se défendre. Mais je pense pas qu'au départ c'était un goût du dissensus, c'était un goût, ça pourrait paraître prétentieux, mais de la vérité, en tout cas de la réflexion, et puis aussi un goût de la justice, de l'égalité, de la liberté, qui fait qu'on écrit certaines choses, et puis assez rapidement, on se rend compte d'avoir dit, par exemple, que renvoyer une jeune fille de l'école, c'est pas forcément une bonne chose.
Au prétexte qu'elle porte le voile.
Au prétexte qu'elle porte un foulard, c'est pas forcément une bonne chose. Que les homosexuels n'aient pas le droit de se marier s'ils en ont envie, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce type de position qu'encore une fois, a priori, et peut-être naïvement, on ne pensait pas si sulfureuse, on apprend très vite que dans le champ politique, médiatique dominant, ça nous situe à l'extrême de l'extrême de l'extrême gauche, voire effectivement du côté des islamo-gauchistes et des...
Et des moins que rien.
Ou des nouveaux fascistes, ou que sais-je.
Enfin, disons qu'une des intentions au départ, un des points de départ du collectif et de notre travail, c'était de mettre en évidence ce qu'on a appelé, enfin ce qu'on a repris comme expression, là, l'eupénisation des esprits. C'était l'objet du premier livre qu'on a publié, puis même avant ce livre, en fait, des premiers textes qu'on a écrits. Et un des objectifs de notre démarche, c'était effectivement, peut-être un peu naïvement au départ, de mettre en évidence le fait que ce qui nous apparaissait, nous, assez clairement, comme des manières de penser, des manières de parler, assez directement issues de l'extrême droite, se retrouvaient dans la bouche de bons républicains, de droite comme de gauche. Et ça, évidemment, nous, notre intention était effectivement de le montrer à partir de mots, d'analyses, de discours très précis, médiatiques, intellectuels, politiques. Effectivement, ça n'a pas été pris aussi facilement qu'on le pensait.
Alors l'important pour vous, c'est que les mots sont importants, c'est-à-dire que vous partez du langage, hein, tous les deux. Et vous avez une préface, un début du bouquin qui est formidable, où vous citez Orwell, où vous citez Bourdieu sur le langage, et c'est ça la base de votre travail. Hein. C'est d'abord les mots, et les mots, ben voilà, ceux des médias, ceux du pouvoir, ceux de tous. Et comment les mots trompent, peuvent tromper, ensorcellent, peuvent ensorceler, et malgré ceux qui les utilisent. Hein, Bourdieu dit bien ça, que très souvent les journalistes utilisent des mots, ils citent islamique, islamiste, voilà, pour dire mais qu'est-ce que ça veut dire. Et ces différences-là sont évidemment extrêmement porteuses de conséquences qui peuvent être tout à fait dramatiques. Donc votre truc, c'est les mots d'abord.
Oui, les mots pour plusieurs raisons. Alors là encore, il y a une raison historique, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait initialement, c'était un travail sur les discours sur l'immigration. À un moment qui est pas anodin, c'est le moment où après la mobilisation des sans-papiers à Saint-Bernard, leur expulsion de l'Église, les lois de Bré, et puis après le retour de la gauche au pouvoir avec le gouvernement Jospin, ce qui finalement envahissait le discours médiatique et politique, c'était une sorte de justification, de légitimation d'une violence vraiment croissante envers les immigrés, avec en revanche des formules du type avec fermeté mais humanité, avec l'idée qu'il fallait à la fois réprimer en même temps être juste, qu'il y avait des sans-papiers qui devaient bien évidemment partir mais en même temps des immigrés qui étaient intégrés, qu'il fallait aider à s'intégrer. Bref, toute une rhétorique que on voyait finalement reprise en quelque sorte aussi au moment où la gauche était revenue au pouvoir. Et finalement qui marchait assez bien. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, alors que un an auparavant on était à l'église de Saint-Bernard aussi accompagner et soutenir, essayer de soutenir ces luttes, on s'est dit qu'il y avait aussi un combat à mener de l'ordre du vocabulaire, de l'ordre du langage, pour pas se laisser avoir.
Alors les mots sont importants, vous dites c'est un collectif et ça a 10 ans. Là, vous présentez 31 textes sur 10 ans. Et comment ça a commencé l'histoire? Tout ça, c'est une aventure Internet. Hein, vous passez d'Internet au papier.
Alors, au départ, c'est pas une aventure Internet. Disons que le premier texte était un texte bien écrit, qui a été signé collectif Les mots sont importants. Et c'est en fait une proposition qui nous a été faite par Erwan Lecor de constituer un site finalement, qui a donné de l'audience à ce qu'on faisait et qui nous a permis, avec toute la liberté que vous évoquiez au début, de publier les textes qu'on avait envie de publier et de dire les choses qu'on avait envie de dire.
Mais là, aujourd'hui, vous êtes combien dans ce collectif ? Parce que vous produisez beaucoup, hein. Il y a un texte qui sort tous les 2-3 jours et c'est pas des petits textes légers. Il y a des analyses souvent très fouillées. C'est un boulot dense, très souvent.
La composition du collectif, elle est très informelle. On est en tout et pour tout deux à décider de la ligne éditoriale, c'est-à-dire à centraliser toutes les propositions de texte ou à, inversement, solliciter des gens pour écrire sur divers sujets. Donc on est deux à animer, à faire le travail d'animation. Et après, c'est très difficile à dénombrer parce que c'est une série de cercles concentriques, de proches qui sont des collaborateurs réguliers qui, lorsqu'ils écrivent, écrivent presque pour le site ou en tout cas pensent tout de suite au site lorsqu'ils ont des idées de texte, et puis des cercles plus larges, de contributeurs plus irréguliers, plus occasionnels. Certains sont aussi des gens qui ont écrit des textes qu'on prend, nous, l'initiative de republier, pour leur donner une autre audience. Par exemple, un texte qui est sorti dans une revue un petit peu confidentielle, ou uniquement sur papier, ou un chapitre d'un livre qui nous paraît particulièrement intéressant. Il y a un petit peu plus d'un millier de textes.
Ah oui, quand même, sur 10 ans.
Sur 10 ans, donc ce qui fait une moyenne de 100 par an, avec effectivement une centaine de personnes qui ont écrit sur le site. Mais il n'y a pas de carte, ils ne sont pas encartés au collectif, les mots sont importants, tout ça est très informel.
C'est-à-dire que les auditeurs vont vous envoyer des textes, faites attention, vous allez être submergé par des quantités
De toute façon, on reçoit, alors on ne publie pas tout, il nous est arrivé de publier.
Quand vous publiez pas, quand vous envoyez un texte, vous êtes des censeurs, vous dégonflez.
On n'a pas eu trop d'injures.
Pas encore.
Jusqu'à présent, ça a été plutôt bien pris.
31 textes que vous avez regroupés à la fois par date et par chapitre. On a l'impression que on revient sur des tas de choses qu'on a oubliées, évidemment, sur ces 10 ans. Surtout que c'est certaines choses que vous avez sélectionnées comme étant quoi ? Comme étant révélatrices d'une époque, d'un moment, de ces 10 années ? Ou simplement des textes sur lesquels vous avez travaillé, des moments, des épisodes sur lesquels vous avez travaillé. Pourquoi cette construction ?
C'est vraiment une construction qui a obéi à plusieurs logiques. C'était d'abord des textes qu'on aimait bien et puis qui ont été beaucoup lus, qu'on avait envie de rassembler pour des lecteurs qui connaissaient déjà mais qui pouvaient avoir envie de les avoir comme ça sous forme écrite. Il y a eu une logique de thème aussi, et puis une logique qui consiste à être à vouloir souligner aussi les modifications, les changements qu'il y a pu avoir dans ces 10 dernières années dans les mots de cette nouvelle langue, justement. Avec des mots qui sont apparus, on parle par exemple de la question de la diversité la question de cette fameuse question de la mixité sociale, du communautarisme par exemple, et qui marquent des manières différentes aussi de s'exprimer.
De masquer la même chose.
Voilà, c'est ça.
Très souvent. Alors on peut venir sur les différents chapitres, les poupées ventriloques par exemple, vous déconstruisez complètement les sondages en reposant d'autres questions.
Oui.
Vous reposez d'autres questions qui ne sont jamais posées, on s'aperçoit. Évidemment, la réponse est dans la question. Et la question induit certaines réponses, on le sait déjà, mais là, vous le montrez. Vous mettez ça à plat d'une manière... évidemment, à chaque fois, il faut prendre la peine de vous lire, quoi. Hein, ça va pas vite. C'est pas des petits articles, des petits articulés, c'est des papiers de fond.
Il y en a des plus courts aussi, des billets, qui étaient un petit peu des billets d'humeur. Et puis, il y en a des plus longs, comme effectivement, notamment ces articles sur les sondages. Notamment un qui revient sur un sondage qui avait été fait après les fameuses émeutes, entre guillemets, de 2005. Alors qu'il concluait au fait que, les Français étaient favorables à un dispositif qui a été pris par le gouvernement à l'époque, qui était le couvre-feu. Alors, on revient justement sur la manière dont la question a été posée. Puis la manière dont plein d'autres questions qui auraient pu être tout aussi légitimes,
pas été posées.
Sans doute plus, n'ont pas été posées.
Oui, exemple, pensez-vous, on aurait pu poser une question par exemple, pensez-vous que les jeunes émeutiers soient les seuls responsables de la situation ? Voilà, c'est le genre de question qui n'est jamais posée, mais on voit bien que dans la question, ça induit quand même des réponses qui pourraient ne pas être défavorables aux émeutiers, par exemple.
Voilà, exemple.
Voilà. Pensez-vous que le gouvernement actuel a une responsabilité dans les affrontements et les dégradations qui frappent actuellement certaines banlieues ? Il se peut très bien que les personnes consultées aient tendance à dire oui, par exemple. Non. C'est vrai, c'est drôle. Approuvez-vous les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la racaille et le nettoyage au Kercher, des cités populaires, voilà. Et c'est vrai que on voit tout de suite, par les questions que vous inventez, que les autres le sont aussi.
Voilà, c'est ça, que c'est pas une langue neutre, que la langue journalistique n'est pas une langue neutre comme elle prétend être.
C'est ça, parce qu'à partir de ces sondages, on construit tout un discours, évidemment, et des éditorialistes brillants s'appuient sur ce qui est présenté comme, évidemment, indiscutable, puisque ce sont des chiffres.
Oui.
Et parce que c'est non seulement indiscutable scientifiquement, parce qu'il y a la magie du chiffre, mais indiscutable moralement, puisque c'est le dieu opinion, c'est-à-dire la plus haute autorité dans un régime démocratique, qui s'est exprimée. Et c'est de là que vient le titre du chapitre « Poupée ventriloque », c'est que l'opinion publique est une espèce de mascotte de poupée ventriloque que l'on fait parler, à qui l'on fait dire ce que l'on a envie de dire, effectivement. On maîtrise d'ailleurs non seulement la question qu'on pose, mais en plus, en amont de la réponse oui ou non donnée par le sondé, mais on maîtrise ensuite, on reprend le micro immédiatement après, on maîtrise l'interprétation de ce oui ou de ce non.
Onction, superstition, moralisation, réflexion, dévotion, prosternation, génuflexion, purification, confession, soumission, option, absolution, sanctification, ablation de réflexion. Malédiction, inquisition, intimidation, suggestion, punition, version, extrême onction, décomposition, expiation, destruction, machination, conjuration, intoxication, possession, régression, père, patrie, patron. Nation, consommation, manipulation, extorsion, pollution, compromission, domination, interpellation, subversion, transgression, fonction, déportation, dépopulation, délation, attention, attention, père, patrie, patron, friction, insoumission, vocifération, digression, désertion, action, libération, élimination, crispation, perdition, révolution, exclamation, manifestation, conception, suggestion, mission, libération, consécration, création, émotion, père, patrie, patron, père, patrie, patron.
Vous avez fait un long travail aussi sur le vote Front National. Et il y a un cliché qui revient tout le temps, c'est de dire « Ah, le vote Front National est celui d'anciens, généralement des gens qui étaient au Parti communiste ou proches du Parti communiste et qui, déçus par le Parti communiste, sont passés au Front National. » Ça, c'est un cliché, c'est quelque chose qui est répété depuis un bon quart de siècle. Mmh. Et vous dites non. Vous dites que ce n'est pas tout à fait ça, c'est même pas ça. Mais à travers, là aussi, un long travail de déconstruction.
Oui, alors là, mais on reprend aussi beaucoup des travaux de sociologie et de sciences politiques qui ont montré assez finement, justement, que l'augmentation du Front National dans notamment les quartiers populaires n'était pas due aux anciens électeurs qui votaient avant, par exemple, communistes, mais à la radicalisation, par exemple, de nombreux ouvriers de droite. Et tandis que de nombreux ouvriers anciennement communistes maintenant s'abstiennent, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de l'abstention dans ces quartiers populaires, on a une augmentation du vote Front National, mais pas de ceux qui avant votaient à gauche.
C'est ça, c'est-à-dire voilà. Que pour pouvoir dire ceux qui votaient communistes votent désormais Front National, il faut éliminer toutes les abstentions. Or, évidemment, voilà. L'abstention est une expression aussi. Politique.
Voilà, c'est ça. Et puis, alors, ce qui nous intéressait à travers ça, c'est effectivement réfuter cette idée, mais aussi dénoncer ce à quoi elle sert, hein, en fait. Et notamment à travers l'expression qui a été courante à un moment donné du gaucho-lepéniste, qui serait passé du vote communiste au vote Front National.
Ou du vote, autre formule aussi canonique, poncif, qui s'est imposé depuis 20 ans, c'est le vote de protestation. C'est-à-dire, le Front National serait un vote de protestation, puisque c'est un vote de pauvres. Ce qui est une manière à la fois de disqualifier les pauvres, puisque c'est à cause d'eux qu'on a un Front National si fort, et en même temps, réciproquement, de légitimer ce que porte le Front National, puisqu'il porte quand même, malgré tout, une colère, même si elle est mal exprimée. Encore récemment, dans les débats concernant l'extrême droite, effectivement, il ne se passe pas 5 minutes d'une émission avant qu'on en arrive à parler quartier populaire, chômeurs,
ouais.
Et on passe l'heure de l'émission là-dessus. Non seulement ce dont on parle est erroné, C'est-à-dire, il n'y a pas une plus grande proportion de chômeurs ou d'ouvriers qui votent Front National. Simplement, ils obtiennent des pourcentages plus importants, tout simplement parce qu'ils votent moins pour les autres partis. C'est l'effet de l'abstention qui fait qu'une même quantité en valeur absolue d'électeurs Front National pèsera 30% si 50% des gens s'abstiennent et pèsera 15% si 100% des gens sont allés voter. Donc il y a ce premier aspect. Donc là, on peut réfuter par toute une série d'enquêtes sociologiques l'idée fausse selon laquelle les ouvriers voteraient plus Front National. Mais il y a aussi une autre chose qui est complètement écartée des analyses, c'est qu'il y a d'autres classes sociales qui avoisinent les 25-30% petits artisans, commerçants, chefs d'entreprise, avec des taux d'abstention justement plus faibles, donc c'est-à-dire un vrai contingent plus fort, un vrai bastion électoral plus fort que les ouvriers ou les chômeurs qui votent pour le Front National. Et ça, on l'écarte de l'analyse parce que justement, ça fait tâche. Et puis donc, effectivement, non seulement donc, c'est une manière d'accabler une fois de plus le peuple, le lepenisme serait un populisme, et ce serait le peuple qui serait raciste. Et en même temps, c'est là que c'est très pervers, c'est que comme c'est le peuple, on peut lui pardonner, il faut quand même l'écouter. Et donc, ce qu'il faut faire, puisqu'on prétend que le vote Front National serait une colère dévoyée face à une misère sociale, non pas faire des réponses sur la misère sociale, c'est là encore le paradoxe, c'est que globalement, la réponse de toutes les élites, et là encore UMP comme socialiste, c'est de dire, mettons-nous à l'écoute de ces pauvres qui sont les électeurs du Front National, et donc, répondons sur quoi ? Ben non pas sur la pauvreté, mais sur de la fermeté sur l'immigration.
Oui, en gros, ça donne une sorte de vernis démocratique à la lepénisation des esprits.
Alors, le bouquin s'étend donc sur 10 ans. Là, ces analyses que vous avez faites, évidemment, sont inspirées par 2002, hein, par le vote Front National face à Chirac en 2002. Mais vous évoquez après, mai 2005, le refus des Français face au traité de constitution européenne. Évidemment, là, vous occupez d'un certain Serge Julie, qui, il faut le rappeler aux jeunes générations, était le patron de Libération, et qui, au lendemain de ce vote, a exprimé tout son dépit de ce peuple qui... Il faudrait changer le peuple. C'est un peu ça, l'idée de Serge Julie. Mais ça a été un grand moment, quand même, dans l'aveuglement. Ben, on parlait d'aveuglement en commençant, ou d'auto-intoxication. Là, on a eu vraiment un cas d'auto-intoxication caractérisé dans le monde médiatique. Enfin, par l'élite médiatique.
Oui, et puis, ça a été une période délirante et qui montre aussi ce système des poupées ventriloques, alors, qui est à géométrie variable. C'est-à-dire que autant on peut se servir du peuple et de ce que dit le peuple quand ça nous arrange, mais quand ils ne nous suivent pas, nous, les éditorialistes, nous, la classe politique, il est immédiatement diabolisé. Et c'est ce qu'on a entendu à propos de la protestation, enfin, du non à ce référendum, et puis tout le mouvement social qui s'est développé avant le vote. C'est-à-dire, c'était l'expression d'une xénophobie, d'un refus de la modernité, et j'en passe. Et tout d'un coup, le peuple devenait une sorte de repoussoir contre lequel devaient se défendre les élites éclairées pour leur montrer le bon chemin à suivre.
Chemin faisant, dans votre travail sur ce site, les mots sont importants, donc devenu aujourd'hui un bouquin. Pierre Thévagnan disait, on a commencé un peu gentiment, voulant exprimer quelques idées. Je suppose que vous avez vu vous se lever contre vous une certaine adversité dans les mails que vous recevez, dans les réactions à vos articles ou dans les interventions diverses et variées que vous faites. Vous êtes enseignants tous les deux. Est-ce qu'on réagit à vos analyses, à vos points de vue, vos engagements ?
Oui, alors il est vrai qu'on a été engagés sur un certain nombre de questions, alors notamment l'affaire du voile, on a vraiment pris fait et cause contre la loi excluant les filles voilées de l'école, et c'est vrai que certains intellectuels s'étant mis au service de cette loi, en tout cas ce qu'on analyse comme une vague de profonde d'islamophobie sur cette question, un certain nombre de ces intellectuels effectivement ont réagi à plusieurs reprises très violemment contre nous. Je pense par exemple à Caroline Forest qui ne nous porte pas dans son cœur.
Et oui, et effectivement c'est à partir de 2003 et de ce combat-là pour le droit tout simplement à la scolarité pour tous et pour toutes, y compris les filles qui portent un foulard, nous a valu effectivement d'être les idiots utiles de l'islamisme, des islamo-gauchistes, des islamo-fascistes. Enfin, c'est allé très loin. Je passe sur des propos même plus orduriers. Donc effectivement, la violence dans les réactions, on l'a effectivement rencontrée. Soit de la part d'anonymes comme ça sur des forums, soit effectivement, de temps en temps, des grandes plumes de l'éditocratie qui nous règlent comme ça, d'un revers de manche, notre compte.
Vous le savez, dans les années 60, notre riche et paisible présipoté a totalement oublié de se doter d'une banlieue difficile comme ses principaux voisins. Pour y remédier, notre président a donc décidé de faire construire une barre de 160 mètres de long, un immeuble insalubre dans lequel un millier de volontaires grolandais ont décidé de vivre pendant 3 mois pour meubler leur ennui. On les voit au moment de leur arrivée.
Oh, c'est extraordinaire, nous allons vivre la grande aventure du dénuement, de la violence urbaine, du béton des cœurs.
Et 3 mois après, on les voit au moment du retour sur Terre.
On va foutre le feu en cul de terrasse.
Et qu'est-ce que tu viens nous emmerder ici avec ta caméra? Porte-toi, ça n'a rien à foutre ici, tire-toi, tu nous emmerdes.
On continue avec Sylvie Tissot et Pierre Thévanian autour de ce livre, donc Les mots sont importants, qui reprend des textes parus sur le site Les mots sont importants. Et là, on arrive à une longue analyse sur les émeutes de 2005, en vous référant aux émeutes précédentes, celles des Minguettes et de Vaux-en-Velin. Vous essayez de mettre tout ça en perspective et de voir les retours de langage, les retours de comportement, les retours d'analyse qui se répètent comme ça régulièrement.
Oui, en fait, on est parti dans ce texte des discours à la fois bon des parlementaires après les émeutes justement de 90 à Vaux-en-Velin et puis des articles de presse qui étaient parus à cette époque-là. En fait, c'est une époque importante parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à parler du fameux problème des banlieues, de la fameuse question des banlieues qui va être un peu le cadre d'analyse à travers lequel on va désormais penser et parler des problèmes sociaux. Et en fait, ce qui se met en place à cette époque-là, ce qu'on montre à travers ces discours, c'est une manière en fait complètement à la fois dépolitisée et largement psychologisée, finalement d'appréhender un phénomène qui est à l'origine de ces émeutes, qui est la mort d'un jeune lors d'une altercation avec les forces de police, qui est en fait le scénario qu'on retrouve dans toutes les émeutes, de cette émeute-là jusqu'en 2005. Et jusqu'à Villiers-le-Bel, oui, effectivement. Et ce qu'on souligne, c'est alors que, bien finalement, à partir de ces événements, de la colère des jeunes qui s'ensuit, on pourrait pointer du doigt à la fois la question de la discrimination des jeunes, des rapports avec la police, la question du chômage qu'il y a dans ces quartiers, les questions socio-économiques. Et en fait, ce qu'on entend, c'est un discours sur le mal-vivre des habitants, le mal-être des habitants, une analyse complètement psychologique, finalement, des problèmes sociaux. Et c'est ça qu'on pointe du doigt dans cet article-là, avec en même temps ce qui s'opère à l'époque, c'est un lien très fort entre question des banlieues et question de l'immigration. Alors on pourrait dire, oui, effectivement, c'est pas sans lien, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés et de descendants d'immigrés qui vivent dans ces banlieues. Mais par contre, le lien n'est pas fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on va parler des banlieues de l'immigration, on va parler de l'immigration avant tout comme un problème qui se pose dans ces quartiers avant que de parler des problèmes que subissent ces populations. Je parlais de la discrimination, par exemple. Et puis, dans les analyses qu'on entend à cette époque-là, ce qui est très frappant, c'est que le problème des banlieues, c'est avant tout le problème des immigrés qui sont maintenant trop différents. Avant, les immigrés s'intégraient par l'école, par les syndicats, etc. Maintenant, c'est plus possible. Les immigrés sont trop différents. Ils viennent de plus loin. Ils n'ont pas la même religion. C'est plus pareil. Et ça, c'est vraiment un discours qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, évidemment, qu'on retrouve avec les débats sur l'identité nationale.
C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions, et après-demain, 40. Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. C'est quelques lignes, on a compris, c'était de Charles de Gaulle.
Et ça, 50 ans après, si on repense aux propos d'Hortefeux, on n'a pas beaucoup bougé.
On n'a pas beaucoup bougé sur...
Quand il n'y en a qu'un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes.
Voilà. C'est plus court que la phrase de De Gaulle, mais les époques sont de plus en plus... On peut arriver à dire ça en moins de mots que...
C'est la temporalité télé, je pense.
Qu'il en fallait à De Gaulle. On sourit, mais c'est pas drôle, cette histoire-là.
Nettoyer les banlieues au Karcher. Ça veut dire qu'il nous prend tous pour de la saleté.
Toi le petit roquet, toi qu'elle est dans l'ombre, toi qui prépare ton avènement dans l'ombre, toi le shérif, toi qui casse les manifs, toi qui te vois calife à la place du calife, toi tu t'es fait plaise, t'as soufflé sur les braises, et par ta faute t'as mis à 193. où t'as mis le feu à la banlieue en quelques phrases. Quelques mots de trop qui ont fait déborder le vase. Bilan, 3 semaines d'émeutes, 10 000 caisses brûlées et gymnases, des écoles parties en fumée. 3 000 gamins interpellés, 600 écroués de morts et des centaines de blessés. Toi, t'as réveillé le malaise de 30 années de chômage, 30 années d'austérité qui ont fait des ravages. Des mots foudrages inconscients et suicidaires, il est pour le résultat de ta politique sécuritaire.
Encore une nuit de tension à Clichy-sous-Bois depuis la mort de deux adolescents dans un transformateur EDF. Les échauffourées s'étendent à d'autres villes de Seine-Saint-Denis.
Toi, tu t'excuses pas, toi, le roi de la surenchère, toi. T'as déterré la hache et t'es parti en guerre, toi. Toi, tu nettoies les quartiers populaires ou Karcher. Puis tu renvoies la vermine étrangère en charter. Toi, tu suis ton plan, t'alimentes la peur, toi. Toi, tu prends goût, c'est qu'elle joue en ta faveur, toi. Toi, t'es content, toi, t'as vaincu les sauvages, toi. Toi, le sauveur, toi, qui monte dans les sondages, toi. Toi, tu ratisses large, toi, tu marques des points, toi. Les dirigeants FN t'applaudissent dès demain, toi. Toi, t'as remis au bout du jour l'état d'urgence. La mère réminiscence coloniale de la France.
Des violences qui se répètent depuis 11 nuits. Des voitures brûlées, des entrepôts et des bâtiments publics.
Des centaines de villes qui l'ont encore incendiées dans toute la France.
La racaille, c'est la raclure. C'est le déchet qu'il faut évacuer, éliminer quand on a bien raclé une chose. Quand on dit la racaille, chacun entend que ça veut dire vous êtes tous pareils. Ça met tout le monde dans le même sac. Un sac poubelle, évidemment, 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 évidemment. Toujours ce processus de déshumanisation.
Alors, il y a quelqu'un pour qui vous éprouvez beaucoup d'intérêt, c'est Nicolas Sarkozy, que vous comparez à une sorte de créature composée d'un tas d'éléments épars. Et vous mettez dans Sarkozy un peu de Reagan, un peu de Berlusconi, un peu de Mitterrand, un peu d'Oufouet de Boigny, un peu de Mao Tse-Tung, un peu de Pierre Poujade, un peu de Michel Houellebecq et de Jane Kennedy aussi. Et de Tony Blair, enfin voilà.
Et même Tony Montana, le Scarface de Brian De Palma.
Oui. Mais ça peut faire une créature magnifique. Hein. C'est le métissage, après tout.
Ça aurait pu, oui. mais ce qu'on montre aussi dans ce texte qui est consacré à Sarkozy, c'est que justement, c'est une espèce de personnage comme ça qui s'est construit, mais que le sarkozysme aussi est un espèce de collage d'éléments comme hétéroclites, mais également, c'est pas si hétéroclite que ça. C'est-à-dire que si on regarde quels ont été les piliers de sa campagne, et de son discours, et de son idéologie, et de sa politique, eh ben, on retrouve travail, famille, patrie. C'est-à-dire que la droite n'avait jamais autant ressemblé à la droite pétainiste que depuis qu'on a effectivement ce président Sarkozy. L'article est assez nuancé, puisque finalement il montre qu'il y a un côté hétéroclite, bricolé, ridicule, et qu'en même temps c'est inquiétant et vraiment dangereux, qu'il y a une vraie cohérence profondément de droite, voire d'extrême droite, pour parler justement de ce côté à la fois extrême droite, travail, famille, patrie, et en même temps une ramayade par-ci, une Fadela Mara par-là, et quelques gestes comme ça pour la vitrine. On avait repris l'expression « United Colors of Travail, Famille, Patrie », ou encore, plus récemment, la formule d'extrême droite plurielle. Donc c'est pas du pétainisme pur et dur, c'est un espèce de pétainisme pluriel. Mais dernier point, dernière nuance dans ce texte qui en contient beaucoup, c'est que même si effectivement, au bout du compte, on a un personnage politique, une idéologie et une politique des lois qui sont votées, qui sont franchement monstrueuses, par ailleurs, il faut aussi éviter l'excès de fascination, de terreur, de sidération sur Sarkozy, et notamment une fascination qui touche beaucoup des gens qui, y compris, le redoutent, le combattent, le haïssent ou le craignent, et à juste titre, qui consiste à dire « c'est notre antipode politique, mais il est fort ». Il est intelligent, il est habile, au moins comme bête politique. C'est quelqu'un qu'on doit estimer. Et c'est à cette idée reçue un petit peu qu'on s'en est pris dans ce texte, en montrant que cet excès de fascination pour la force, l'intelligence tactique de Sarkozy et de son entourage n'a pas lieu d'être, tout simplement parce que c'est la quantité d'abord qui a plus joué que la qualité en termes de campagne électorale. Même avec une stratégie de communication médiocre, si elle est sur toutes les ondes 24 heures sur 24, elle finit par produire des effets. Deuxièmement, c'est que c'est à l'usure qu'il s'est imposé dans l'opinion. Et troisièmement, qu'il n'a été fort en grande partie que de la faiblesse de la gauche qui lui faisait face. Et pour nous, justement, l'excès de fascination pour Sarkozy et le sarkozysme, c'est aussi un piège, justement, parce que c'est un moyen finalement assez commode pour la gauche et pour toutes les familles de la gauche, de faire un petit peu justement leur bilan critique sur la manière dont ils ont été finalement pas très à gauche, et donc sur de nombreuses thématiques, et notamment, mais pas seulement, les questions économiques, les questions dites d'immigration, dites des banlieues, dites d'insécurité, de très larges secteurs de la gauche se sont ralliés, parfois même ont anticipé, je pense notamment sur l'islamophobie et sur la question du voile, ben finalement ce qui a été le terreau idéologique sur lequel Sarkozy a ensuite prospéré.
On parle de votre bouquin de façon un petit peu décousue, là on saute d'un chapitre à l'autre, d'un sujet à l'autre, bon c'est la forme d'une rencontre comme celle-là, on peut pas, il faut le lire le livre, voilà, ça économise pas la lecture du bouquin ce qu'on est en train de se dire là, mais quand même, quelle est la cohérence de votre boulot depuis 10 ans, qu'est-ce que vous voyez comme ligne dans votre préface, dans la présentation que vous faites du livre, vous dites voilà, c'est une contribution anticapitaliste, antiraciste et antisexiste. Vous vous positionnez très clairement d'une manière radicale. C'est ça qu'il faut comprendre à travers tout ce travail. Est-ce que ça se réduit à trois mots comme ça, anti, anti, anti ?
Non, et puis...
Mais c'est une façon aussi d'être clair, vous essayez d'être clair.
Oui, c'est une façon d'être clair, mais derrière ça, il y a aussi une analyse de la manière dont toutes ces thématiques-là, capitalistes, sexistes, racistes, s'imbriquent aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a changé. Et ça apparaît dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau, notamment depuis le début des années 2000. C'est la grande apparition de l'argument féministe dans cette langue des médias et cette langue dominante qu'on entend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment à cœur aussi de dénoncer. C'est-à-dire que, alors, c'est apparu beaucoup à l'occasion de l'affaire du voile, mais pas seulement. Une des grandes manières aujourd'hui de stigmatiser l'autre, l'étranger, le musulman, le jeune des banlieues, c'est plus seulement de dire qu'il est délinquant, plus seulement de dire qu'il est chômeur, qu'il profite des allocations familiales, mais c'est de dire qu'il est sexiste. Qui bat sa femme, qu'il oblige sa fille à porter le voile, etc., etc. Et ça... c'est une grande stratégie rhétorique. Alors on montre aussi que justement c'est 10 ans et le livre montre que c'est pas inchangé.
Qui justifie qu'on... les opérations en Afghanistan aussi. On libère les femmes
exactement.
En Afghanistan. On libère les femmes maintenant
partout.
C'est une
guerre pour les femmes effectivement.
Et pour la laïcité aussi. La laïcité est très utile. Voilà. Les femmes et la laïcité c'est vraiment les deux mamelles de la pensée contemporaine.
Ouais. C'est pour ça que notre travail il n'est pas répétitif parce que cette langue elle se ressource aussi. Il y a des inventions langagières et puis il y a des inventions rhétoriques qu'il faut constamment aussi mettre en évidence.
Alors on va finir avec le dernier chapitre qui s'intitule « Grosse bite ». Voilà, c'est pas moi qui l'écris, je suis désolé pour les auditeurs et auditrices que ça pourrait choquer, mais ce chapitre s'intitule donc « Grosse bite ». Et vous commencez par évoquer non pas le voile mais le string. On a oublié, j'avais complètement oublié pour ma part, qu'il y avait eu des condamnations ou des critiques faites aux jeunes filles qui portaient des strings dans des établissements scolaires ou ailleurs, enfin peu importe dans la vie, et aussi bien Monsieur Darcos, votre ancien ministre, vous qui êtes enseignant, que Madame Ségolène Royal se sont indignés de ces strings apparents et en conseillant ou en souhaitant que les jeunes filles ne les arborent pas d'une façon aussi ostentatoire parce que ça pouvait avoir des conséquences tout à fait fâcheuses. Mais on a oublié complètement cet épisode.
Oui, le ministre Darcos disait très clairement même qu'il fallait qu'il appelait les lycéennes à plus de pudeur parce que ça excitait. Donc elles étaient responsables, coupables d'exciter leurs condisciples masculins. Et puis Ségolène Royal était encore plus explicite puisqu'elle disait faut pas s'étonner après s'il y a du harcèlement sexuel et des viols. Donc ça prolonge un petit peu ce que disait Sylvie sur justement la manière dont, durant la dernière décennie, il y a eu une captation nationaliste et raciste de la problématique de l'antisexisme. Là, très clairement, on se rend compte non seulement que nous, on a combattu ça par antiracisme, parce que justement c'était un nouvel argument raciste de plus qu'il fallait combattre, mais également par antisexisme, parce que ça fait quand même bizarre de voir sous la bannière, face à des collégiennes voilées pour les virer de l'école, sous la bannière du féminisme, des gens qui ne se sont jamais auparavant illustrés par leur antisexisme. Au contraire, et là on a deux exemples, c'est-à-dire que cette histoire elle arrive au même moment où on est en train de renvoyer de l'école des filles parce qu'elles portent le foulard, en disant que leur conception de la pudeur qui leur fait mettre le foulard est rétrograde et arriérée, et en disant que justement faire porter sur la femme la responsabilité de la concupiscence et de la violence masculine, c'est abject. Et exactement au même moment, sans aucun problème de conscience, et Ségolène Royal et Xavier Darcos nous disent que finalement, les filles qui portent un string sont responsables de la violence masculine qu'elles pourraient ensuite subir.
J'écris des cuite quand j'enfile le tutu de poète de service. Oui, j'écris des mots crus pour pallier les moqueries. Ouais, j'écris des mots crades, ça me sert de parade.
Continue avec Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan autour de ce livre. Donc, les mots sont importants. Bon, c'est des papiers publiés au jour le jour, au coup par coup. Là, vous avez reconstruit sur 10 années, 31 textes, je le rappelle, pour montrer votre travail, votre. Qu'est-ce qui caractérise ces 10 ans?
On pourrait dire, c'est la suite de la lepénisation des esprits, mais c'est la lepénisation des esprits, elle commence dans les années 90. On pourrait dire, c'est la suite, sa radicalisation, son institutionnalisation, on pourrait dire aussi.
Son renouvellement, puisque justement il y a des thématiques qui sont usées, comme par exemple celle du clandestin, la figure du clandestin et le mot clandestin lui-même qui véhicule des peurs, des inquiétudes. C'est quelque chose qui marche moins bien depuis qu'il y a des mouvements de sans-papiers qui sont sortis au grand jour et qui ont montré qu'ils n'avaient rien de si patibulaire. Bien au contraire, ce sont des ouvriers pauvres qui réclament finalement pas grand-chose. Il y a des termes comme ça qui étaient très 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 utilisés, qui étaient la base du vocabulaire et du registre argumentatif, qui sont un petit peu délaissés au profit d'autres. Donc à un moment donné, ça a été l'insécurité. À d'autres moments, après le 21 avril 2002 justement, où là, quand même, il y a eu des soupçons et des critiques dans l'opinion sur est-ce qu'on en a pas un peu trop fait. Donc ça s'est redéplacé justement sur les femmes, les violences faites aux femmes, qui permettaient de redonner un vernis progressiste à ces problématiques sécuritaires. Et puis il y a eu évidemment le 11 septembre, et surtout la gestion idéologique et politique et médiatique du 11 septembre, qui là a vu une montée en puissance de thématiques qui émergeait déjà, bien sûr, dans les années 80, mais à savoir celle de l'islam et de l'islamophobie.
Oui, c'est-à-dire que la lepénisation des esprits, aujourd'hui, elle s'alimente directement de la rhétorique du choc des civilisations entre un Occident progressiste, éclairé, dédié à l'égalité des hommes et des femmes, et un Orient ou un monde musulman obscurantiste, totalement haut, totalement étranger. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau qui arrive avec le 11 septembre, mais qui prend une forme très particulière en France aussi. Hein, c'est-à-dire qui se nourrit aussi d'un discours sur la laïcité à la française, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, même si dans d'autres pays on peut retrouver ce discours du choc des civilisations, comme aux États-Unis. Mais en France, il prend une forme très particulière. Il se veut universaliste, il se revendique aussi d'une tradition qui serait une tradition républicaine, laïque, etc.
Peut-être aussi un point plus positif sur ces 10 années, c'est qu'il y a des résistances, il y a des questions qui émergent un petit peu, et qui était encore plus occulté qu'aujourd'hui dans les années 80 et 90, celle de la discrimination par exemple. Il y a des gens qui ouvrent leur gueule, qui revendiquent et qui font émerger malgré tout, tant bien que mal, malgré l'espèce de chape ou de sourdine qu'essayent de mettre les grands médias et les grands partis sur ces questions. Et j'ai même envie de dire que l'un et l'autre s'alimentent. En gros, la parole haineuse, stigmatisante, n'a pas besoin de proliférer quand l'ordre inégalitaire n'est pas du tout contesté. Quand les subalternes restent à leur place, on n'a pour eux que de la bienveillance paternaliste. Et lorsque on commence à hausser la voix, se fâcher tout rouge, alors voilà, on peut penser à Hortefeux, à Finkielkraut, à Sarkozy, à montrer les biscottos et à sortir l'injure, c'est pas un racisme tranquille, c'est un racisme inquiet. Voilà, le point positif, c'est peut-être celui-là. Il y a des résistances face à cet ordre qui est très brutal, mais qui n'est pas incontesté.
Oui, vous citez une phrase d'une personne qui travaille, c'est Christine Delphi qui dit « Les dominés ne se libèrent pas de la façon que les dominants souhaitent ».
Voilà, c'est ça. Ça fait jamais plaisir aux dominants, la manière dont ils le font, parce que, effectivement, ils le font en remettant directement en cause le pouvoir des dominants. Alors, elle le dit initialement à propos des femmes, mais finalement, on peut le dire...
Mais tout ce travail, tout votre travail, vous et votre collectif, repose encore une fois sur le langage. Et je reviens au tout début du bouquin où vous citez Orwell. Évidemment, Orwell, c'est 1984. Et 1984, c'est la critique du totalitarisme. Mais ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, ça peut paraître bizarre de citer Orwell, alors que nous vivons dans une société démocratique, ouverte, avec une grande liberté d'expression, dit-on et croit-on. Et vous dites, plus un régime se dit démocratique, et égalitaire, plus il doit légitimer la violence qu'il exerce et l'ordre inégalitaire qu'il instaure. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez plus de boulot qu'Orwell en avait.
Oui, c'est ça.
Enfin, nous avons plus de boulot, je me mets quand même dedans.
Et puis pourquoi on cite Orwell? Parce que Orwell, ce qui l'intéresse, ce qui pointe, c'est comment défendre l'indéfendable. Enfin, comment s'organise la défense de l'indéfendable? Comment la violence la plus forte, à la fois physique, symbolique, les inégalités les plus criantes, comment tout ça peut être justifié, peut être défendu? Et c'est pas si simple que ça. Il en faut des mots pour ça, des mots, des nouveaux mots, des discours, des dispositifs. Et c'est vrai que dans des régimes démocratiques, ou en tout cas qui revendiquent des mots d'ordre démocratique, des principes démocratiques, revendiquent aussi, comme on le disait, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est, en tout cas en théorie, hostile aux discriminations, aux inégalités, bah, effectivement, c'est pas évident. C'est pas facile. Donc il faut beaucoup bosser. Enfin, en tout cas, ceux qu'on analyse bossent beaucoup. Voilà.
Merci Sylvie Tissot et Pierre Thévenin. Je rappelle encore une fois le titre de leur bouquin, Les mots sont importants. C'est chez Libertalia et puis ils ont leur site, Les mots sont importants, que vous pouvez trouver très facilement. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Anne-Laure Cochet, Christian Thibaudeau étaient à la technique aujourd'hui, Coye Nguyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attend vos messages au répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
C'est encore moi. Pour vous dire que vendredi, Euromillions met en jeu une somme encore plus sonnante et trébuchante que la semaine dernière, près de 77 millions d'euros. 77 millions.
Ça sonne bien, non?
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ.
16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Les infos, Dominique Delaroy. Salut.
La France à la diète. François Fillon confirme l'objectif d'adopter d'ici la fin de l'année un programme de 5 milliards d'euros d'économies sur 2 ans en réduisant les niches fiscales et sociales. Le Premier ministre participait à un séminaire gouvernemental sur la préparation du budget 2011-2013. Il confirme également que les dépenses de l'État seront gelées pour les 3 années à venir. François Fillon indique d'autre part que la politique de non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 sera poursuivie dans la fonction publique. L'objectif réaffirmé de ramener le déficit public à un taux inférieur à 3% du PIB en 2013, conformément au plan de redressement transmis à Bruxelles. Et le monde culturel est dans la rue aujourd'hui, notamment à Paris cet après-midi. Les professionnels du secteur expliquent que 30 millions d'euros réservés à la création vont disparaître du budget de la culture l'an prochain. Ils dénoncent également le fait qu'avec la réforme des collectivités territoriales désormais privées de la taxe professionnelle, la culture en région face à celle des grandes institutions est menacée. À Toulouse, justement, des élus responsables de la culture étaient réunis pour les deuxièmes assises nationales des directions d'affaires culturelles. C'est là que les manifestants sont allés dire leur mécontentement, Frédéric Bongade.
Un spectacle, c'est du temps, des savoir-faire, du travail, des emplois et des sous, notamment ceux des collectivités territoriales. Mais ils n'ont plus de taxes professionnelles, donc plus de ressources autonomes et plus de compétences officielles, culture. Conséquence, les artistes trinquent, Michel Vier, de la CGT Culture.
La culture ne fait pas partie des obligations en matière de financement des collectivités territoriales. Donc c'est évident, s'il y a moins de pain et qu'il y a plus d'obligations sur des choses qu'on ne peut pas éviter, c'est la culture qui va trinquer, c'est évident.
Premier touché, les petits qui remplissent les salles de quartier et de village. François est machiniste pour des compagnies théâtrales. Elle l'appelle de moins en moins.
Déjà, elles n'ont plus les moyens de se produire, de monter des créations. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'aide. Est-ce qu'on va continuer à m'appeler ? Est-ce qu'il y aura encore besoin de moi ?
Eva a un chapiteau, des salariés, un spectacle équestre. Sa crainte, c'est que désormais, la logique économique tue toute créativité. Eva de la compagnie Salam Toto dans le Comminges.
On ne va que vers le connu, vers le sûr. Il y a une logique d'élimination et puis il faut que ce soit efficace, que ça marche et qu'on le sache d'avance.
Ce réalisme fonctionne d'ailleurs déjà. Le budget culture a perdu 5% dans certaines communes du département de la Haute-Garonne. Du coup, les élus culture font des choix économiques. François Lajuisan, président de l'Association des directeurs d'affaires culturelles.
Lorsque votre budget baisse de 10%, vous devez quand même maintenir les salaires, les charges fixes. Vos 10% de moins, ils se portent uniquement sur les actions. Et là, ça fait baisser les actions de 20 ou 30%.
La culture est donc en danger, expliquent les manifestants. Place au divertissement, disent-ils. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Et puis toujours à Toulouse, on s'est arraché les billets pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Finale qui sera disputée le 22 mai au Stade de France face à Biarritz. Les 7500 places allouées aux supporters toulousains ont été vendues en moins de 2 heures. Et le Stade toulousain n'a donc plus de place à la vente pour cette finale.
Le foot du roi. Stéphane Bern.
Demain, vendredi à 11h, Stéphane Bern recevra Dominique Baudis et Marie-Hélène Carbonel. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter, partenaire du festival Paroles et Musique à Saint-Étienne du 12 au 16 mai.
Allez, reviens à la maison.
5 jours, plus de 50 artistes. Olivia Ruiz, Renan Luce, De Palmas, M, Jeanne Chéral, Fefe, La Rue Quétanie. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Renseignements franceinter.com.
En direct du Palais des Festivals, dimanche 23 mai, dès 19h30 sur France Inter, spécial Masquer la Plume, avec Jérôme Garcin, son équipe et Eva Bétan pour découvrir le palmarès 2010. Le 63e Festival de Cannes, c'est sur la croisette au Palais des Festivals avec France Inter. Renseignements sur franceinter.com. France Inter, la différence.
Et il est 16h04, passé de 30 secondes, tout de suite le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Chopin, bien sûr, au programme toute l'année, puis après, puis avant aussi, on en a entendu beaucoup. On aime Chopin, mais là c'est son anniversaire, on ne le dira jamais assez. Et celui de Schumann qu'on n'oublie pas non plus, ils sont nés tous les deux en 1810. Alors, une nouvelle parution avec une jeune pianiste, Hélène Tisman, et elle nous propose les préludes par exemple, et puis aussi la deuxième sonate de Chopin avec la marche funèbre. Moi je vous propose le 16e prélude, une sorte de course éperdue, virevoltante, virtuose au possible, c'est très court, comme souvent les mouvements très rapides d'ailleurs, sinon on s'épuise, et vous allez entendre après ça que finalement les différences d'ambiance, Chopin les maîtrise parfaitement. Le premier, il a vraiment, c'est une sorte de scintillement presque difficile à maîtriser. Thank you. une minute, quelques secondes, le 16e prélude de Frédéric Chopin. On va le plus vite possible, on peut dire. Et puis, c'est bien fait, c'est bien joué. Hélène Tisman était aux commandes, si j'ose dire. Et voici le suivant, le 17e. Et alors là, cet allegretto va nous montrer autre chose complètement sentimental. C'est un chant poétique et amoureux. Rien à voir avec l'espèce de mécanique emballée qu'on a entendue. Mais c'est ça, le génie d'un compositeur, c'est de savoir tout exprimer.